Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons être ensemble pendant une heure et on va parler d'un ciné-rencontre qui va se dérouler au Majestic à Compiègne. Pour parler de ce ciné-rencontre, le temps des forêts, soutenu par l'association Oise Nature, j'ai justement des membres de l'association Oise Nature. J'ai avec moi Didier Caron, vice-président, Jean-Luc Caron, président, et Stanislas, que vous connaissez déjà, puisqu'il officie déjà sur cette radio, qui est aujourd'hui administrateur de l'association. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. On va parler un petit peu de l'association avant de parler du film. Qui nous présente l'association et quel est le but d'Oise Nature ?
Eh bien, l'association Oise Nature existe depuis 1981, ça fait 37 ans d'existence. On est basé sur le Compiénois, mais on peut intervenir partout. Hein, Compiénois, le Noyonnais, les forêts de Lègue, Ourscan, Compiègne et d'autres massifs forestiers. Nos objectifs, c'est de bien sûr voir ce qui se passe en forêt, hein, pouvoir surveiller, contrôler, discuter, dialoguer, essayer d'améliorer la situation. De voir ce qui se passe au niveau des plans de chasse sur le département, puisqu'on est membre de la commission départementale des plans de chasse. Et puis, de pouvoir défendre également un dossier énorme qui est les biocorridors de l'Oise, hein, parce que notre département bouge dans tous les sens. Et si on n'est pas vigilant, on bloquera la faune sauvage dans des massifs, dans des poches. Et donc, nous, notre objectif, entre autres, c'est de défendre ces biocorridors.
On va revenir un petit peu sur tout de vos activités. Et justement, qu'est-ce que c'est un biocorridor ? Je pense avoir déjà la réponse. Je crois que c'est les routes qui traversent les autoroutes ou les grandes nationales, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
On va en parler au cours de l'émission. Mais avant, comment vous êtes arrivés dans cette association, tous les trois ? Comment vous êtes dit un matin, je vais me réveiller pour la forêt ?
Eh bien, une bande de passionnés, suite à ce qui se passait en forêt, dans l'exploitation, déjà à cette époque-là, notamment en 80, où il y avait déjà des grosses coupes rases de réaliser et des problèmes qui étaient naissants, puisque le Prunus sirotina, cette plante envahissante qui fait suite aux coupes rases en priorité, commençait à apparaître. Donc nous voyions les dégâts qui se passaient. Il y avait déjà à l'époque, comme c'est très curieux, des problèmes avec la chasse, globalement. Donc la poignée de passionnés que nous étions, nous avons décidé de faire un mouvement, déjà pour expliquer la situation aux gens qui étaient totalement ignorants de ce qui se passait en forêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, et encore aujourd'hui, ignorants de la situation. Donc nous avons créé ce mouvement. J'étais à l'époque comme Stan, comme mon frère, on était dans le bureau. Et puis d'année en année, il y avait des présidents qui se sont succédés. Et puis je suis arrivé à faire mon tour, à prendre la présidence de cette association, et puis à la faire vivre avec toute l'équipe, parce que c'est un travail constant et une passion qui prend du temps et qu'il faut s'organiser, quoi.
C'est compliqué au quotidien, vous devez dialoguer avec les chasseurs, dialoguer avec les forestiers, dialoguer avec l'administration. Quand on est une association, on arrive à avoir du poids face à ces institutions ?
On est quand même très écouté, on est membre de ces groupements-là, et puis on est représenté à la préfecture de l'Oise dans les commissions telles que le plan de chasse, telles que le CODERS, telles que des choses comme ça. Et puis la DDT et la DRIAL sont très attentifs à ce qu'il y a des citoyens qui travaillent le milieu associatif, c'est important. Ça peut faire des belles économies parce que ça peut éviter de prendre des bureaux d'études sur certains dossiers. Donc il y a là une synergie à voir. Et puis comme on a une bonne association, on a un bon paquet d'adhérents, on remue bien, on n'est pas des va-t-en-guerre aussi, on est attentif à tout ça parce qu'on n'est pas non plus des ayatollahs de l'environnement, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit ou à ce qui se passe. Donc ça ne nous discrédite pas, au contraire, on est recherché pour apporter des avis.
La DDT, pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est la direction départementale des territoires. Et la DREAL, c'est eux qui s'occupent de l'environnement. Et c'est quoi d'autre ? C'est quoi la fin de DREAL ?
De logement.
Logement, c'est ça. Ouais.
Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes en général.
Exactement. Ouais, t'as raison de rectifier la situation.
Oui, parce que des gens peut-être ne savent pas ce que c'est ces organismes-là. Vous êtes sur quelle forêt, vous ? Parce que sur Saint-Jean-Bois, tous les trois ?
Non, je m'occupe aussi de la forêt de Haize. Mais notre siège social est à Saint-Jean et notre noyau, notre berceau, notre existence première, c'est sur les forêts de Compiègne, Lègue et Ourscan. C'est vraiment cette zone nord-est du département.
Là, aujourd'hui, autour de chez nous, c'est uniquement des zones... c'est que des forêts communales, enfin, genre nationales plutôt, des forêts domaniales, c'est ça ?
C'est essentiellement des forêts domaniales, avec quelques bois privés, mais l'essentiel de toute la zone, ce sont des bois de forêts domaniales.
Là, aujourd'hui, le gros problème de ces forêts, c'est quoi le gros souci entre les années où vous avez commencé et aujourd'hui, c'est quoi la différence ?
Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Bon, il y avait le couperase en 80, on y revient maintenant plein pot. J'espère que ça va cesser. C'est une méthode de gestion de la forêt. Ça, c'est une forêt très productive, faite par les machines. Le grand changement, effectivement, c'est ça. C'est les machines.
La mécanisation. Ouais.
Et puis, le marché du bois qui s'est accéléré par les volumes. Le bois énergie qui n'existait pas à l'époque. Tout un tas de choses comme ça sur l'enlèvement des rémanents, la pauvreté, l'effondrement des sols. Et puis surtout, un paramètre qui a fortement changé, c'est bien sûr le bilan carbone. Les forêts ont un rôle essentiel dans le bilan carbone. On voit des mouvements nationaux qui vont bagarrer pour la forêt brésilienne et autres forêts dans le monde. Hein. Mais pour mettre des huiles de palme et compagnie, toutes ces cochonneries-là. Mais nous, chez nous aussi, il faut qu'on défende nos forêts parce que l'exploitation telle qu'elle est faite, elle est faite à une vitesse forcée. Elle n'est plus au pas de la régénération naturelle. 3-4 ans après du travail de préparatoire, on enlève les semenciers. Et puis derrière, c'est la cata parce qu'aujourd'hui, avec la sécheresse, les calamités qu'il y a en forêt, rien ou pas grand-chose pousse, sauf des plantes envahissantes qui nous desserrent et qui desserrent le gestionnaire dans la forêt.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque les chasseurs disent qu'il y a beaucoup d'animaux qui détruisent les cultures, etc. Sauf qu'il y a moins en moins de forêts, donc les animaux automatiquement se retrouvent dans les cultures et sur les routes, pour les sangliers, par exemple.
C'est pas aussi simple que ça, d'ailleurs. C'est parce que beaucoup d'animaux, c'est pas vrai, hein, c'est plus la vision qu'on a. Alors c'est vrai que des animaux, si on prend une vision géographique nationale, un plan global, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où les animaux se sont développés, mais ils ont été importés par l'homme, déjà, ils ont été voulus. Je vois par exemple en montagne, j'ai mon fils qui est en Savoie, il va écouter bramer à 2000 mètres d'altitude, et il y a des animaux qui sont là. Les gloux commencent d'ailleurs très bien à les réguler, ces espèces-là. Hein. Il y a un secteur que je connais, à Sainte-Foy-de-Tarentaise, où il n'y a pas eu de vent cette année. Ils ont été croqués par les gloux. Bon, maintenant, ils attaquent les brebis, mais ça, c'est un autre problème. Mais donc, ce développement de cette grande faune n'est plus le reflet de la gestion localement. On arrivait à un état d'équilibre, à mon avis, puisqu'on voit bien que la forêt, si on voulait bien la travailler comme il faut, elle se régénérerait bien.
Automatiquement, oui.
Ça, c'est certain. Mais il y a des calamités qui viennent perturber tout ça. Alors, c'est facile de faire porter le chapeau à la grande faune, mais c'est plus le cas, quoi. C'est plus le cas du tout dans bien, bien des forêts du département.
Là, vous venez pour parler d'un film qui s'appelle Le Temps des Forêts, justement. Ce film sera diffusé le jeudi 4 octobre à 20h au Cinéma Le Majestic avec le réalisateur qui sera là. D'ailleurs, c'est un film qui a reçu un prix là récemment. Ce film, c'est vous qui l'avez choisi ? Vous l'aviez vu avant ? Comment s'est déroulé le choix du film ?
Alors, il faut savoir que Oise Nature fait partie d'un collectif qui s'appelle SOS Forêt. Et SOS Forêt, c'est un collectif qui a été créé il y a quelques années à l'initiative de professionnels de la forêt, notamment des syndicalistes de l'ONF, faut pas le cacher, mais également d'associations comme les nôtres. Et petit à petit, donc, ce collectif a pris de l'ampleur parce que les problèmes que Jean-Luc vient de décrire, on les trouve dans toutes les forêts de France, qu'elles soient privées ou publiques. Et donc, il y a eu lorsque le film a été annoncé, il a été demandé aux associations si certaines associations se sentaient d'accord ou d'attaque pour aller présenter et soutenir ce film dans les différentes régions. Donc, Oise Nature s'est mis sur les rangs et très rapidement, avec l'équipe d'animation du Majestic, on a décidé de le présenter dans le cadre de ces rencontres cinéma organisées par cette salle de cinéma.
Ouais, ça s'appelle les semaines de la critique. En fait, à la base, ça a été présenté dans les semaines de la critique,
voilà.
Au festival, justement, et il a été primé. Qu'est-ce qui a retenu votre choix sur ce film ?
Bien, ce film, j'allais dire, est décrit avec beaucoup de précision ce que l'on déplore actuellement dans les dérives productivistes des forêts. Alors là, dans le film, on parle beaucoup de la forêt privée et des forêts qui sont plantées notamment de par le lieu de résidence du réalisateur qui est sur le plateau de Mille Vaches. On va parler de la forêt de Mille Vaches, qui est une forêt qui a été plantée il y a une cinquantaine d'années et que l'on commence actuellement à récolter. Mais ce qui se passe dans ces forêts, on voit que petit à petit, eh bien, c'est en train de transpirer dans ce qui se fait dans nos forêts domaniales et que si on ne prend pas garde à justement dénoncer ces pratiques productivistes, eh bien, on a de forts risques de voir nos forêts se transformer elles aussi en champs de résineux, en tout cas en forêts cultivées, en ligne, comme on plante du maïs et qu'on récolte comme du maïs, c'est-à-dire à la batteuse. Hein, dans le film, on voit très bien une abatteuse qui est capable de descendre un épicéa en une minute.
Champ d'arbre plus qu'une forêt, en fait.
Voilà, donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est encore dans des forêts ici ou est-ce que l'on est dans des champs d'arbres ? Eh bien, nous, on ne veut pas de ça. Alors, c'est un combat de tous les jours. Et donc, voilà, ça a été l'un des premiers critères. Ce film décrit parfaitement les dérives actuellement productivistes de la forêt française.
Là, aujourd'hui, on commence à retrouver ces sapins. Alors, c'est quoi ? C'est les Normans, c'est ça ?
Non, c'est des Douglas. Les Douglas, on plante du Douglas, ouais. On plante aussi de l'épicéa. Alors, le risque en forêt de Compiègne, ça a été abordé. On a assisté à la réalisation de coupe à blanc. Donc, la coupe à blanc, on rappelle ce que c'est. Hein. C'est une coupe qui permet de mettre une parcelle à nu. On enlève tout ce qu'il y a dans la parcelle. Et elle est dite à blanc et coupe rase parce qu'on va y planter une nouvelle essence. Donc en forêt de Compiègne, on y plante du chêne actuellement, du chêne Cécile, car il est prévu que ce chêne résistera mieux aux évolutions climatiques à venir. Ce qui est contestable dans la mesure où l'INRA a montré qu'à l'horizon 2030, il ne sera peut-être plus en station ici chez nous, c'est-à-dire qu'il ne sera peut-être plus dans les conditions optimum dans une forêt comme Compiègne.
Pourquoi trop chaud ?
Il fera trop chaud. Ouais. Trop chaud, voilà. Donc peu importe du choix, mais en tout cas, c'est de cela que l'on parle. Donc on a fait des coupes rases, on les a engrillagées. Vous parliez des grands animaux tout à l'heure. On les a engrillagées pour les protéger de la dent du cerf. Et puis on s'aperçoit que le résultat n'est pas aussi probant que ça, puisque le taux de reprise est relativement faible. Hein. Il est de l'ordre de... Nous, on pense 10%, l'ONF annonce 20%. Bon, même 20%, c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'il y a 20% de la plantation qui pousse seulement. Et ils sont obligés, de façon itérative, de revenir deux fois, trois fois dans la parcelle pour y planter des arbres, sans que ça ne pousse. Donc la tentation est grande aujourd'hui de dire, mais si les feuillus ne poussent pas, on va y mettre du résineux. Mmh. C'est facile.
Là, c'est ce qu'on voit justement dans le film. Hein. C'est ce qu'on voit dans le film, donc sur le plateau des Mille Vaches, des forêts complètes de résineux avec une terre du coup plus du tout homogène, avec plus d'humus. Donc ça, c'est ce qu'on peut arriver en forêt de Compiègne.
Ce qui peut arriver. Hein. On a des secteurs de la forêt de Compiègne où il y a déjà des résineux. Hein.
Pour ceux il y a sur la forêt de Lègue, il y a une petite parcelle.
Pour ceux qui la connaissent, le tour justement de Saint-Jean-aux-Bois et le secteur de la Muette où il y a des résineux, on voit que malheureusement le résineux a un gros inconvénient, c'est que les aiguilles qui tombe au sol, acidifie le sol, et qu'une fois qu'on a mis des résineux, il est extrêmement compliqué de revenir en arrière.
Il n'y a rien en dessous les résineux.
Il n'y a rien qui pousse. Hein.
Quelques
champignons, un tout petit peu de Prunus serotinens, forêt de Compiègne, malheureusement, parce que lui s'installe partout. Et puis, on se retrouve avec des parcelles relativement pauvres. Alors, pauvres en termes de bois, ça veut dire aussi pauvres en termes de biodiversité. Bref, c'est toute une cascade là, qui se met en place. Et voilà, il faut se méfier de ça, et c'est ça qu'on combat aussi. Et ça, le film le montre magnifiquement bien.
Moi, je suis né en 84, et innocemment, j'imaginais que la forêt de Compiègne et la forêt de l'Aigle, par exemple, étaient des forêts très très vieilles, des forêts centenaires. C'est pas le cas ?
Ah bah si, c'est bien sûr le cas.
Sur les arbres qu'il y a, enfin, je pensais que les arbres avaient connu la première, la seconde guerre, etc. Quoi.
Nous sommes dans la dernière phase du plan d'aménagement qui devrait se terminer en 2025, quelque chose comme ça. Et effectivement, sur la forêt de Compiègne, notamment, je parle du plan d'aménagement de Compiègne, il y avait, avant de démarrer ce dernier plan, il y avait 25% de vieux arbres. Des arbres colossales, importants. Et bien sûr, dans l'objectif en fin d'exercice, l'ONF en laissera que 8%. D'accord. Donc, pour vous dire que c'est une forêt vieille, il y a des secteurs de la forêt, les arbres, ils ont plus de 400 ans.
Il y a des sites
et magnifiques, remarquables. Tout à l'heure, vous évoquiez les écarts qu'il y avait entre 1980 et aujourd'hui. En 1980, le forestier plantait 8000 arbres à l'hectare. Aujourd'hui, ils en plantent 1200. Et quand vous avez un échec dans la proportion que DJ évoquait, je ne vous dis pas ce qui reste sur le terrain. Il ne reste plus rien, ou alors des plantes envahissantes, ou de la ronce qui envahit tout, qui n'est pas traitée, qui n'est pas nettoyée, mais qui fait une protection quand même, une protection d'habitat. Mais c'est pratiquement un échec. On n'est plus dans le développement durable de la forêt. Voilà des écarts que nous constatons entre hier et aujourd'hui. Alors qu'un forestier dise « mais il y aura toujours des bouts de bois », puisqu'on l'entend ça, vous inquiétez pas, il y aura toujours des bouts de bois. Mais on en est loin, quoi. Parce que lorsque le travail préparatoire du sol, heureusement, il ne touche pas aux souches des arbres. Alors qu'en forêt de Chantilly, on a été jusqu'à déchoucher les parcelles. je vous dis pas, derrière, c'est de la pelouse. Hein.
Ça pourrait
jouer au golf.
Là on le voit justement dans le documentaire où les machines retirent les souches. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les machines sont monstrueuses. C'est vraiment, quand elles prennent les arbres, elles les prennent comme des brindilles, elles les découpent. Enfin, c'est assez beau aussi, hein, dans le sens de l'industrialisation.
De la technique,
la technique, c'est assez impressionnant.
C'est assez monstrueux. Quoi.
Mais c'est dingue. C'est assez dingue. On les voit avancer dans de la boue. Enfin, ça ne s'arrêtera jamais. Quoi. Alors qu'on imaginait ça plutôt dans les grandes forêts vierges en Amazonie. Et non, en fait, ça
à côté de chez nous.
Imaginez l'impact sur le sol, puisqu'on sait très bien que les 15 cm de surface, c'est le sol porteur de demain. Hein, avec les rémanents, avec la végétation qui pourrit en surface. Quand on a un magma de sol comme ça, j'aime mieux vous dire, pour planter derrière, bah, il faut être balèze. Hein.
Justement, on en reviendra, parce qu'au cours du documentaire, les forestiers parlent un petit peu de, en dehors de la valeur marchande du bois, tout ce qu'apporte la forêt entre la rétention d'eau, etc. Je vous propose c'est qu'on écoute un extrait musical, on se retrouve juste après. J'ai choisi que des morceaux avec bois dedans, donc bon, écoutez, on va écouter Woodkid, voilà, l'enfant de la forêt, l'enfant du bois, avec le titre « Iron ».
Snow is burning my hands, I'm frozen to the bones. I am a million miles from home, I'm walking away. I can't remind your eyes, your face.
Woodkid avec ce titre, on va parler du coup du bois, donc on reste Woodkid, après on écoutera le titre de Hélène in the Wood, c'est le titre Iron sur les ondes de Graphite 94.9, www.graphite.net, également disponible sur vos smartphones, sur les box, et puis un petit peu partout vous pouvez nous retrouver, si vous nous trouvez pas d'ailleurs, dites-le nous s'il y a des applications sur lesquelles on n'est pas présent, parce qu'il faut se rentrer parfois à la main. On reparle un peu du temps des forêts, le document s'appelle Le Temps des Forêts, ce sera le jeudi 4 octobre à 20h, ça sera au cinéma Le Majestic, et on est toujours en compagnie des membres de Oise Nature pour nous parler un petit peu de ce, bah, de ce ciné-rencontre, mais également de l'association et de ces forêts, puisqu'on est en plein dedans, entre la forêt de Compiègne, la forêt... C'est comment elle s'appelle, la forêt qui est à Saint-Jean-en-Bois? C'est, une, c'est la forêt de Compiègne.
C'est la forêt de Compiègne. Ouais. Forêt domaniale de Compiègne.
Mm-hmm. En fait, et la forêt de Bèze, c'est la forêt qui est à Crépy-en-Valois, c'est ça?
Là, c'est Retz.
Non, c'est Bètz.
Retz.
Ouais. Ok. On revient un petit peu sur les problématiques de cette coupe de bois à blanc, puisque ce qu'on disait juste avant, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu devenu à la mode, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est un peu la normalité en fait.
C'est une façon de gérer la forêt, en fait, c'est une façon relativement simple, hein. C'est une sylviculture extrêmement simplifiée, on coupe, on plante, on enferme et on regarde ce qui se passe, voilà, et on laisse se développer. C'est ce qui a été choisi actuellement.
Mais ça, il y a peu de temps, en fait. Il y a combien? Il y a 5-6 ans?
Non, c'est là depuis plusieurs décennies.
Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu des forêts coupées blanc comme ça.
Oui, non, mais c'est une simplification de la sylviculture. Elle est tellement simplifiée, finalement, que l'on sait à quel moment on la plante et on peut presque mettre dans l'agenda à quel moment on va la couper, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Donc, on sait que dans 50 ans, 40 ans ou 100 ans, si c'est des feuillus, théoriquement, un feuillus, ça peut se récolter à 150 ans, 160 ans, mais c'est pas la mode, ça, aujourd'hui, hein. On vous explique facilement dans les réunions avec des professionnels de la forêt que aujourd'hui, les marchands de bois ne veulent plus de gros bois, donc on va les couper plus jeunes. Donc, on sait qu'on va couper du Douglas à 40 ans, boum. Et puis, on s'aperçoit, là aussi, ça fait partie des grandes dérives de la gestion forestière actuelle, c'est que ces temps de récolte, la durée de vie des arbres décroît d'année en année, puisque on adapte la forêt aux besoins de l'industrie. Donc, on vous explique aussi que les scieurs de bois, les producteurs de bois, ne savent plus traiter des gros arbres.
Il n'y a plus de scierie avec des machines qui peuvent couper des gros arbres.
Voilà, exactement. Donc,
ça part en Chine.
Alors ceux-là, on les met dans des containers, on les envoie en Chine, et puis les Chinois, ils savent faire. Donc ils nous préparent des meubles, ils nous préparent des parquets, et tout ça revient par bateau, et on retrouve ça chez les grands fabricants, les grands distributeurs.
C'est bien l'indice carbone.
Alors là, oui, effectivement, si on faisait évidemment l'indice carbone, là on est vraiment dans...
On a les champions.
Voilà, on est les champions du monde, là. Voilà.
Et moi,
voilà.
Si vous permettez, vous voulez préciser sur les coupes à blanc, il faudra préciser, apparemment, si je ne dis pas de bêtises, le taux de régénération sur ces parcelles-là, il est très faible,
très mauvais. Pour diverses raisons, c'est que la forêt de Compiègne, quand même, historiquement, c'est des sols qui sont très pauvres, mis à part ce qui est vers le haut des forêts, c'est-à-dire vers les côtes, ce qu'on appelle les côtes, visiblement, c'est tout ce qui est, pour ceux qui connaissent la région, vers les plaines, en fait, que ce soit Pierrefonds, et là, on a des sols qui sont suffisamment bons pour faire pousser des feuillus. Mais dans le cœur de la forêt, c'est-à-dire dans tout ce qui est en bas, autour de Compiègne, là, c'est des sols extrêmement de très mauvaise qualité, dans lesquels va se développer le Prunus serotina, dans lequel va se développer des herbacées comme le Calaema grossiste, qui sont aussi des empêcheurs de régénérer. Et puis, on peut dire deux mots sur le hanneton, puisque le hanneton a fait son apparition et a mangé tous les plants qu'ils ont plantés. Donc, en fait, on est dans une espèce d'impasse qui est dramatique, quoi, en fait. Hein.
Et puis, la sécheresse aussi, le changement climatique.
Et puis, on parle aussi du changement de la sécheresse. Malheureusement, on voit le changement climatique. Alors, on a des périodes de sécheresse. On en a vécu une cette année. Actuellement, on est dans une grande période de sécheresse. Et là, les arbres n'aiment pas trop. Alors, on plante dans une coupe rase un petit plant qui arrive d'une pépinière où il a été choyé pendant des mois et des années. On le met là, en plein milieu d'un désert, et puis on le met au soleil, et puis on le soumet à l'eau gel, on l'arrose pas, et puis on voudrait qu'il pousse. Ça, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai fait un tout petit peu de jardin. Si j'arrose pas mes salades, elles poussent pas.
Il y a un souci, ouais. Naïvement, avant la vision, enfin le visionnage du temps des forêts, je pensais que le bois qu'on avait dans les forêts, il partait pour faire des beaux meubles, pour faire des poutres, ce genre de choses. En fait, quasiment tout le bois part pour faire des palettes.
Ah oui, alors il y a évidemment... le beau bois d'œuvre existe encore. Il y a encore des gens qui le travaillent, mais la grande majorité, ça part pour faire du copeaux, pour faire
des pelés, du
bois de chauffage. On peut en dire un mot, là, parce que là... on est dans la biomascarade la plus totale. Et donc, effectivement, on fait pas grand-chose. Le beau bois, j'allais dire, les beaux feuillus partent actuellement à l'export, aux grandes dames de tout le monde, de la filière bois, qui pleure en disant « Oh là là, on vend le bois en Chine ». Mais voilà.
Les dernières données là, de 2017 qui sont sorties par le président de la Fédération nationale du bois sont très éloquents à ce sujet. Nous exportons à la Chine 87 millions de mètres cubes. De 70%, pardon, c'est une erreur. 70% du marché des grumes part en Chine et ça représente 87 millions d'euros. Aujourd'hui, la situation est celle que le producteur n'est pas assez payé. Mais le marché du bois est bypassé par des traders qui font la négoce. Et alors que les producteurs, s'ils s'étaient bien organisés en coopérative, quelque chose de puissant, feraient cet échange de monnaie. Hein, ça serait eux qui vendraient en direct. Il n'y a pas besoin de passer par des intermédiaires pour faire quoi ? Eh bien, les intermédiaires vendent le bois 360 euros le mètre cube en moyenne, alors que le producteur, lui, va le toucher à 170 euros le mètre cube. Voyez l'écart. Pourquoi encore avoir mis des intermédiaires ?
C'est le même problème dans l'agriculture, en fait.
C'est la même chose. Voilà, exactement. Donc, si le marché était régi par les producteurs eux-mêmes, qui se disent, bon, il y en a marre, ça suffit, faisons notre chiffre d'affaires nous-mêmes, ils seraient très, très riches aujourd'hui, nos forestiers. Hein, ça, il faut bien le savoir. Ce qui reste aussi de la filière bois, on parle de sa part à l'extérieur, mais comme la filière bois de transformation n'est pas suivie, la scierie de base, hein, qui faisait des plots qui mettaient à sécher, en 2005, il y en avait 900 sur le territoire. Aujourd'hui, on est à 550 scieries, on a perdu la moitié quasiment. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une reprise en main à faire complète sur la gestion des forêts pour que tout le monde puisse y gagner. Parce que la courir à couper du bois en nombre par des machines et ainsi de suite, ça ne réussit pas. Et ça, je dirais même que ça accroît le déficit. Parce qu'en plus de ça, on est en déficit financier.
Comment ça se passe ? Parce que là, c'est du coup le privé qui a pris un peu la main sur cette négociation de bois, alors que finalement, c'est l'État à qui appartiennent les forêts, c'est l'ONF qui gère les forêts. Ça a coincé où, du coup, sur cette gestion ?
Je ne sais pas où ça s'est situé, le bug, là.
Mais... Parce qu'ils auraient pu très bien faire des lois pour, justement, garder leur bois, le gérer eux-mêmes, plutôt que...
Bien sûr, ils avaient toute attitude pour organiser le marché.
C'est une bonne
remarque, ils ont la puissance pour le faire, hein, ils ont l'intelligence pour le faire, mais c'est des traders qui prennent le marché. Tout ça, c'est des chiffres très, très officiels. C'est pas sorti de mon chapeau. Hein. C'est le président de la FNB, c'est une tête, quoi. C'est pas n'importe qui. Hein.
Aujourd'hui, quand l'État veut faire des économies, est-ce qu'elle va taper sur la filière du bois, sur l'ONF ? Puisque c'est quelque chose que les gens qui habitent en ville, forcément, ne voient pas. Nous, quand on est à Compiègne, on est en plein dedans. Mais si on va, je sais pas, dans le Nord-Pas-de-Calais, où il y a que des champs, la forêt, on s'en rend pas compte qu'il y a des grosses forêts comme Compiègne ou Fontainebleau ou d'autres. Du coup, ils sacquent dans les budgets de l'ONF ou c'est plutôt préservé
On va dire qu'actuellement, l'ONF a un déficit structurel qui est abyssal, on va dire. Hein. Et ils gagnent l'argent en vendant du bois. C'est à peu près la seule source de revenus qu'ils ont. Et puis, ils ont diversifié, ils font un petit peu de travail à façon dans des communes. Ils vendent, il y a aussi la chasse qui leur apporte un peu d'argent, mais rien à voir avec ce que rapporte la forêt, le bois. Donc, on coupe du bois. Donc, ce déficit abyssal, évidemment, l'État, l'ONF, c'est un EPIC, établissement public, industriel et commercial. Eh bien, il faut qu'elle tende vers l'équilibre, mais de façon claire, elle n'y arrivera pas. Ça, c'est une certitude. Alors, on essaye de faire des économies d'échelle. Les forestiers ont été mis à la porte par en grand nombre. Hein, on l'a vu, ça a créé des tensions sociales. On en parle dans le film, d'ailleurs.
Où les gens qui se suicident.
Où il est rappelé, effectivement, la grande tristesse et la mise sous pression de ces gens-là qui sont rentrés à l'ONF avec une vision « je vais gérer des forêts » et à qui on fait faire un tout autre métier, c'est-à-dire de faire rentrer de l'argent en coupant du bois. Donc il y a une grande pression sur ces professionnels-là qui sont souvent déprimés de voir ce qui s'y passe. Donc on tape sur l'ONF pour réduire les effectifs, puisque ça fait faire des économies, quoi, en gros.
Là, aujourd'hui, les maisons forestières dans le coin sont toutes vendues. Il n'y a plus aucun forestier qui vit dans une maison forestière.
Il y en a de moins en moins, puisqu'effectivement, tout ce qu'on peut vendre, on le vend. Il faut savoir aussi qu'il y a une certaine période, le forestier s'occupait d'un triage, c'est-à-dire d'une zone forestière dans laquelle il avait quasiment toute facilité pour préparer ses coupes, pour préparer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'ONF a spécialiser les gens. Donc, vous avez des gens qui s'occupent des batraciens, l'autre qui s'occupe, il faut savoir qu'en forêt de Compiègne, il y a un gars qui passe sa vie à cuber du bois, c'est-à-dire à mesurer les volumes de bois que ça représente.
Avec les gros outils.
Avec les grandes règles, là. Donc, il y a une spécialisation qui fait que tout ça est dilué et qu'il n'y a plus, d'opérations de police aussi en forêt de Compiègne. Il faut le savoir, l'ONF, on les voit quasiment plus, si ce n'est à l'époque du Brame où les routes étant interdites à la nuit, ben, on va essayer de choper le Compiègnois qui va écouter Serre Bramé, on va lui faire payer 135 euros. Mais en dehors de ça, on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe en termes de police. Donc tout ça, ce sont des pans entiers du métier qui disparaissent. Et ça, les professionnels de la forêt, de l'ONF, sont extrêmement tristes de voir cette déliquescence, j'allais dire, du métier.
Là, dans le temps des forêts, donc, qui sera projeté le jeudi 4 octobre, il parle de la notion, tout ce qui n'est pas quantifiable financièrement, donc, c'est-à-dire l'accumulation d'eau qu'on peut, pour avoir de l'eau potable, puisque c'est vrai qu'on pense à notre trop qu'on peut traiter, mais en fait, l'eau de la pluie, elle est buvable. Si elle est traitée par les sols, voilà, on la récupère. Oui. Il y a également le traitement du CO2. Toutes ces choses-là qui ne sont pas quantifiables. En fait, la vraie notion de service public, en fait, au final.
Oui, non, mais c'est sûr que là, on va dire qu'ils ont un petit peu raison. C'est vrai que à côté de ça, la forêt, mis à part sa production de bois, elle rend aussi des services à la société. Et donc là aussi, ça pourrait être quantifiable. Après tout, on achète du CO2, on se fait des échanges de CO2 entre entreprises. L'ONF, les forêts ont un rôle à jouer là-dessus. Il pourrait y avoir quelque chose à faire, mais ça, j'avoue que je ne suis pas du tout compétent dans le domaine.
Avec l'augmentation.
Mais déjà, la forêt, de par ses arbres, c'est un capteur formidable de CO2. On sait très bien, malheureusement, ça aussi, c'est décrié. Là, je vais encore sortir un dossier qui est irréfutable. Le Conseil scientifique des Académies des sciences européennes, c'est-à-dire 27 académies, jugent dramatique la situation vis-à-vis du CO2. Il faut arrêter d'exploiter les forêts comme ça. Vendre de la biomasse forestière est plus inconvénient que de faire tourner des usines au charbon.
C'est criminel.
Il faut que le citoyen lambda le sache. Ils sont partis avec ce dossier-là à l'Europe pour dénoncer la situation, demandant au gouvernement de changer. On va encore peut-être prendre des amendes au niveau de l'État parce qu'on n'a pas engagé. Il y a des usines qui fonctionnent grâce aux aides de l'ADEME. Hein, des 70 millions d'euros par an pour faire tourner une usine, importer des copeaux de l'autre bout
du
monde
pour faire des pelés,
ratisser les forêts sur 400 km². On fait venir en bateau. Oui, ça nous fait une belle jambe.
Il y a une partie comme ça, justement, dans le documentaire, où on voit une coupe avec toutes sortes d'arbres. Genre, c'est ce qu'on peut voir le long des routes. Vraiment plein d'arbres différents, avec leurs branches, etc. Et en fait, du coup, ces arbres-là qui sont entiers, qui sont énormes, ils sont mis dans des broyeuses pour faire, du coup, des copeaux. Donc, il y a de l'énergie qui est produite pour faire des copeaux en bois sur des arbres qui sont énormes pour ensuite être mis dans des inserts où, en général, on dit que c'est plutôt écologique d'avoir un insert puisque la forêt se régénère automatiquement.
Il est clair que bon, on s'est toujours chauffé au bois, hein, donc ça, on n'a rien inventé. Il faudra continuer de le faire probablement. Mais là, ce qui est à dénoncer, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'en va. Donc en fait, on s'aperçoit que je lisais dernièrement un article, la plus grande usine de production de bois, de pellets, et la plus grosse chaufferie en Grande-Bretagne. Bouffe par an 120% de la production de bois de la Grande-Bretagne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font ?
Donc ils sont obligés d'importer. Quoi.
Voilà. Et donc ils sont obligés d'importer par camion, par bateau entier, du bois qui vient des États-Unis. Et là, vous voyez maintenant aux États-Unis des mouvements qui demandent à l'Europe d'arrêter le massacre parce qu'ils n'ont pas plus de bois que nous. Donc on voit des porte-containers qui partent là-bas et on est dans une espèce d'impasse. L'ADEME, qui est quand même l'organisme de la. Transition énergétique, a quand même pondu en 2016 un rapport dans lequel elle explique à la vitesse où vont les choses. En 2030, on n'aura pas assez de ressources de bois en France pour faire tourner toutes nos usines. Et on continue d'en faire.
Est-ce qu'on peut vraiment se baser sur les études, puisqu'on le voit dans le documentaire, à un moment, ils se sont basés sur des études pour avoir une quantité de coupes par an, et en fait, ils se sont plantés totalement dans les chiffres. Ils ont pris des chiffres trop petits.
Oui, trop gros. Oui, ça, il faut le dire. Ça aussi, il y a eu une grosse erreur dans l'inventaire forestier national en 2009, où on a surestimé la capacité de la forêt finalement à produire du bois, quoi, en fait.
Donc mais là, ils surcoupent, quoi.
Donc là, alors bon, ils ont corrigé l'affaire quand même. Hein. Il faut rester honnête, mais il y a quand même eu ce genre de bévue, quoi, j'allais dire, qui est énorme. Donc il faut faire attention à ce qui est fait, quoi, en fait. Il faut en forêt de Compiègne, moi aujourd'hui, j'ai le sentiment que on prélève plus que la forêt ne produit. Alors on va vous dire, ah oui, mais c'est 6 mètres cubes par hectare et par an. OK ? Mais bon, quand on enlève des grands arbres et que derrière, on n'est pas capable de régénérer, on n'est pas dans la déforestation au sens où on l'entend pour l'Amazonie, par exemple, mais on est aussi dans quelque chose qu'on pourrait appeler, ce qui est dit d'ailleurs dans le film, et je trouve que le terme est particulièrement bien choisi, c'est la malforestation. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans le bon sens, quoi, en fait. Et donc, ça, on tient à le dénoncer et à essayer de faire avancer les pratiques dans le domaine. Mais ce n'est pas facile.
Vous travaillez avec les scolaires? Est-ce que vous travaillez avec les écoles, les primaires, les collégiens, les lycéens? Pas trop?
Je l'ai fait à une époque. Et puis, il y avait tellement de contraintes qui m'étaient données par le milieu scolaire, avec deux ou trois personnes accompagnantes, une assurance spécifique et ainsi de suite, que ben, malheureusement,
c'est trop compliqué, hein.
j'ai dû cesser. Et puis, ce qui ne me plaisait pas non plus, c'était que j'apparaissais, quand je faisais une sortie ou que j'amenais des films et des éléments, c'était comme une récréation pour les bons élèves. Moi, ça ne me plaisait pas, parce que je dirais que le bon élève peut bien survenir, c'est avec plaisir, mais c'était pour tout le monde.
Bien sûr.
Même celui qui était passionné de forêt, mais qui n'avait pas le goût des études, bah, au contraire, qu'il vienne pour qu'on lui parle, qu'on lui montre ce que c'est la nature. Parce que malheureusement, les parents ne montrent peut-être pas assez de ce qui se passe. La forêt de Compiègne, c'est un formidable laboratoire, à la portée de tout le monde. Les Compiénois, il faut qu'ils s'approprient la forêt. Compiénois, les Noyonnais. Nous avons cette passion avec nous, c'est que nos parents, nos grands-parents nous ont emmenés dès nos plus jeunes âges. On était sur le cadre des vélos de nos parents, on allait traîner en forêt, on faisait de la patinette en forêt, on allait n'importe où. Bon, c'était pas du tout la même ambiance au niveau sécuritaire et compagnie, on voyait déjà des choses, mais moins qu'aujourd'hui. On était bercés dans la forêt. Tout petit, on était dans la forêt. J'ai emmené mes petits-enfants, pareil. Mais malheureusement, on n'est pas très... pas assez à faire ça.
Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Pourquoi ça? C'est quoi c'est les gens ont peur d'aller en forêt ou...
Ben, la forêt, elle est de plus en plus fermée. On ferme les routes, on ferme les chemins en terrain naturel, les chemins en pierre sont fermés, on veut fermer les goudrons. Ce qui fait que les gens iront sur des grands axes où laisseront leur voiture qui se fera casser, puisqu'il y aura des regroupements de voitures. Donc les gens ont cette peur également, la sécurité en forêt. Et puis, ben, c'est surtout pour exclure les gens. Mais la forêt, il faut vraiment se mettre dedans, aller pique-niquer en forêt, faire une partie de boule avec ses enfants.
Voilà, c'est compliqué en ce moment, c'est la période de la chasse, il vaut mieux...
Non, mais ça chasse pas tous les jours. Ça chasse pas tous les jours.
Ça va être l'objet d'animation avec l'association, de partenariat. Avec radiographie, éventuellement.
Ça, c'est un documentaire à montrer aux enfants, leur montrer comment ça se passe. S'il y a des profs qui nous écoutent, emmenez vos enfants, vous faites des projections dans les classes, c'est vraiment. C'est très simple.
C'est une réflexion pour Oise Nature, hein, pour l'avenir.
Exactement. Très simple à comprendre. On rappelle les dates, c'est le jeudi 4 octobre, ça s'appelle Le Temps des Forêts, ça a été primé là récemment à un festival qui s'appelle La Semaine de la Critique, qui est à Locarno. Alors, je ne sais pas où c'est, Locarno Festival. Il y aura le réalisateur qui sera avec vous, c'est ça, ce jour-là?
Exactement, François-Xavier Drouet sera présent et c'est un garçon qui est passionné. Il a commencé son film sur le plateau de Mille Vaches et il était loin d'imaginer qu'il allait faire le tour de la France pour déjà réaliser son film et puis ensuite pour le promouvoir, si je puis dire.
Oui. Alors moi, je m'attendais vraiment à un film un peu plus écologique. Il rentre vraiment... il arrive à parler avec les forestiers, avec des gens où c'est le business de l'arme, tout ça. Enfin, je m'attendais à ce que ça soit uniquement on aime les arbres, etc., il faut les protéger. Mais là, en fait, on voit vraiment les problématiques des deux côtés, en fait. Producteurs d'arbres que des utilisateurs, au final. Quoi.
C'est absolument juste, ça. Effectivement, il parle avec tout le monde. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi un grand message qu'il faut faire passer, c'est que... on est souvent décrié en disant « vous voulez sacraliser les forêts, vous voulez les sanctuariser, vous voulez qu'on n'y fasse rien ». C'est absolument pas vrai. Les forêts ont été exploitées depuis la nuit des temps pour bâtir des maisons, pour faire du bois d'œuvre. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Simplement, on demande que ça soit fait autrement. C'est quand même la moindre des choses quand on voit ce qui s'y passe. Donc, très clairement, on le voit dans le film, à aucun moment, même les forestiers de l'ONF disent on coupe du bois, c'est normal. Mais encore une fois, faut-il le faire dans des bonnes conditions, dans des conditions acceptables, écologiquement acceptables surtout.
Hein. Moi, j'étais plus impressionné par quand ils rentrent avec justement, parce que là c'est pas l'ONF. L'ONF, on peut dire, ça peut être les syndicats qui parlent. Là, quand ils rentrent avec le bûcheron dans sa machine et que le bûcheron lui explique qu'aujourd'hui, ce qu'il coupe en une journée, c'est ce qu'il coupait en un mois avant. Voilà, on rentre vraiment au cœur un peu du sujet et des choses que j'aurais pas imaginé. En fait, je pensais pas qu'ils allaient en parler, puisque quand on voit des grosses machines en forêt, automatiquement, ça peut nous faire mal au cœur. Bah là, ils en parlent librement.
Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est clair que on voit quand même dans le film cette dérive vers une agroforesterie, c'est-à-dire transformer la forêt en champ d'arbres. On le voit. Il y a des parallèles avec l'agriculture qui sont juste frappants. Hein, ces machines qui sont énormes, où le gars vous explique avec beaucoup de sincérité que il est obligé de la faire tourner 30, 12 ou 14 heures par jour parce qu'il a une traîne de 9 000 euros à payer à la fin du mois. Et qu'à côté, on voit le petit bûcheron qui travaille encore à l'ancienne qui dit « Moi, je dors sur mes deux oreilles parce que ma machine, elle m'a coûté 1 000 euros et puis je vais à mon rythme. »
C'est ça
la grande dualité qui est actuellement.
Il dit qu'il ne veut pas travailler pour payer un crédit, en fait.
Exactement. Il dit « Je ne veux pas travailler pour payer un crédit et je veux dormir sur mes deux oreilles la nuit en étant tranquille. » quoi, en fait. Ce qui fait que ces machines, finalement, elles rentrent en forêt par tout temps. Donc, elles détruisent des sols. Enfin, bref.
Ils sont obligés. En fait, il y a une rentabilité. En fait, il l'explique dans le documentaire, c'est qu'il y a une rentabilité qui est obligatoire. C'est que de toute façon, ils doivent faire de 7h à 20h le soir parce qu'il faut rentabiliser la machine. Quoi.
Exactement. Exactement.
On réécoute un extrait musical. Donc, c'est Hélène in the Wood avec le titre Torres. Et on se retrouve juste après. On parle toujours du temps des forêts. Ça s'appelle Le temps des forêts. C'est soutenu par l'association Oise Nature. Ça sera le jeudi 4 octobre au cinéma Le Majestic à 20h. Les tarifs 6,50€ en tarif plein, 6€ en réduit. Et c'est 5€ pour les moins de 14 ans, tout de suite, Hélène in the Wood. La thématique du bois avec Hélène in the Wood, le titre Torres à l'instant sur les ondes de Graphite, www.graphite.net. Cette émission, si elle a pris en cours de route, elle sera évidemment podcastable, disponible sur le www.graphite.net. On est toujours en compagnie de Didier Caron, vice-président de l'association Oise Nature, Jean-Luc Caron, président, et Stanislas, Stan, qui fait également l'émission, mais qui est administrateur de l'association de Oise Nature. Pourquoi tu es rentré dans cette association, puisque tu es toi le plus jeune rentré dans l'asso là ?
Tout simplement, c'était une indignation citoyenne. J'habite à Saint-Jean depuis ma tendre enfance et j'ai observé le massacre, là, depuis 10 ans. C'était vraiment frappant. Je Je me dis, non, c'est pas possible. Je voyais toujours la forêt vivante. Et depuis 10 ans, et ça correspond un petit peu aux observations qu'on avait avec les rapports que vous avez fait chaque année aux âgés, aussi bien au niveau de la faune que la flore, c'était la destruction qui était vraiment palpable. Et voilà, j'étais témoin de ce massacre et j'ai voulu m'engager localement. Et je suis allé tout simplement, il y avait le Oise Nature à Saint-Jean, et voilà.
C'est un constat aujourd'hui, les habitants s'en rendent compte un petit peu que la forêt évolue, que la forêt change, la forêt, les chemins sont impraticables, il y a des arbres, herbes invasives, tout ça.
Alors ça, c'est une certitude, quoi. Ça, c'est clair que lorsqu'on discute avec des gens qui, ne serait-ce qu'à Saint-Jean-au-Bois, ou quand vous discutez avec les gens, on s'aperçoit, très rapidement, ils disent « la forêt est saccagée, on ne peut plus aller se promener, il y a effectivement les traces de débardage un peu partout. » Alors, la question des essences envahissantes est un peu moins prégnante, on va dire, parce que les gens ne se rendent pas compte. Le Prunus serotina, ça fait de jolis, jolis buissons qui deviennent rouges à l'automne. C'est très joli à regarder, hein, sauf qu'on ne se rend pas bien compte. Mais ça, c'est une plante invasive qui étouffe la régénération naturelle du chêne et du hêtre. Et ça, ils ont beaucoup. C'est un peu plus compliqué à voir, j'allais dire. Il faut être un petit peu plus, au courant, quoi. Mais les mauvais chemins, la disparition de la faune, tout ça est évidemment souligné par les habitants. Et je crois d'ailleurs que à Compiègne, la mairie reçoit beaucoup de plaintes. Le syndicat de tourisme aussi reçoit régulièrement des plaintes. Et voilà, quoi. Donc c'est quelque chose qui est, comment dire.
C'est palpable.
C'est palpable. Oui, c'est palpable.
Il faut quand même sensibiliser quand même davantage. Encore, j'ai pas l'impression que tout le monde est vraiment conscient du massacre entre guillemets qui est fait dans la forêt de Compiègne. Hein.
Pourtant, c'est un vrai attrait touristique. En fait, la forêt de Compiègne est une forêt quand même exceptionnelle. Les gens viennent de loin pour la visiter. Elle pourrait être développée un peu plus, d'après vous, sur le côté touristique.
Ah, mais c'est un de nos objectifs aujourd'hui. Il est clair qu'il faut sortir la forêt de cette torpeur telle qu'elle se situe là. Elle est dans une banalisation totale, banalisation voulue par le gestionnaire, parce que pour vivre heureux, vivons cachés et vivons chez nous. Donc on nous ferme les routes, on ne met pas en valeur la forêt. Il ne faut pas oublier que notre élu principal du secteur a dit « si la forêt n'était pas là, Compiègne ne serait pas ce qu'elle serait devenue ». Je dirais que ça, c'est valable pour la totalité de nos forêts. Il faut se souvenir historiquement que la grande forêt de Guise démarrait de l'Isle-Adam, elle montait jusque Saint-Gobain, elle part en direction de la Belgique, elle prenait en passant la forêt de Retz. Donc vous voyez l'importance de ce massif forestier et voyez le patrimoine qui s'est créé historiquement de chaque côté, Chantilly, Senlis, les villes royales, Saint-Jean-aux-Bois, n'oublions pas qu'à Saint-Jean-aux-Bois, ça a été un village roi, il y avait un château, il y avait le roi qui était là. N'oublions pas le développement historique de Compiègne, la valeur, je dirais la valeur de la ville de Compiègne, son attrait culturel, l'attirance qu'a la ville de Compiègne par l'UTC, par les structures qu'il y a, les structures professionnelles et ainsi de suite, il faut mettre notre forêt en adéquation avec cette ambiance généralisée. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation.
Il y a quelques années, on parlait de l'arrivée de l'ONF, son siège social à Compiègne. C'est du passé ou pour vous
Je crois que c'est enterré. Ça.
C'était une discussion de financiers, c'était du donnant-donnant, ça n'a pas abouti. Et à l'époque, c'est vrai que le siège social de l'ONF, qui n'est pas transformable en habitation, quand on voit la rue de Saint-Mandé, ce n'est pas transformable. Puis l'encadrement de tous ces braves gens qu'il y a à Paris, ce sont beaucoup pour des Parisiens. Donc les déplacer à Compiègne, c'était hors de question.
C'est trop compliqué. Pour vous, ça aurait été une bonne chose que le siège de l'ONF soit dans un endroit où il y a une forêt, plutôt que d'être dans le 12e arrondissement.
Je ne sais pas si ça aurait amélioré les choses. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un des problèmes aussi actuels. C'est que l'ONF est tellement décrié. Qu'elle ne veut plus s'exprimer. Et D'accord. donc, le comité consultatif qui existait, qui a été une demande du préfet Michel Jou, qui avait dit qu'il faut créer des consultations avec les populations pour que tout le monde puisse discuter autour de la table. Malheureusement, ces comités ne fonctionnent plus. Les sous-préfets font la demande, à notre droite et de gauche, j'ai fait la demande au préfet, mais ça n'aboutit pas. On est dans un... Il n'y a plus de dialogue possible, quoi. C'est vrai que ça ne doit pas être très agréable. Et je plains quand même les salariés, les techniciens qui sont sur le terrain, parce que tout le monde leur fond la tête. Hein. On voit bien qu'il y a une animosité qui s'est créée. Mais je dirais que les pauvres vont pâtir de leur encadrement, parce que l'histoire, c'est de là que ça vient. C'est un décalage total avec ce qui se passe sur le terrain, les gens de terrain. Alors certains, il y en a qui débarquent, qui viennent d'être embauchés, des petits nouveaux, là, qui sont recyclés de l'armée ou autres, qui viennent là parce que ils ont espoir, ils ont un cœur énorme, ils y vont, quoi, les gars. Puis on leur met la carotte au bout de la ligne, la titularisation et autres. Même certains ne seront plus jamais titularisés puisqu'ils ne sont pas sous le statut du personnel ONF. Mais bref, ces gens-là sont dans le moule et ils y vont, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont entraînés dans le système, mais malheureusement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un décalage énorme avec ceux qui sont à SOS Forêt en dissidence, avec la société civile qui n'a plus d'informations. On demande, alors ça c'est aussi un paradoxe, le ministre nous a écrit comme que nous avions raison, il fallait revoir le plan d'aménagement. Hein. Et puis sur le terrain, on continue les coupes. Là, il y a une vente jeudi matin. Il y a 44 000 mètres cubes à vendre. Des gros arbres, certainement encore. Bref, vous voyez, ça ne change pas. Ils sont dans leur politique. On doit avoir un contact avec un jour avec l'ONF, mais je l'ai sollicité. Je leur fais une demande de rendez-vous pour savoir ce qu'elle va être l'amélioration du plan d'aménagement, parce qu'il faut sortir de cette futée régulière de coupe, de méthode de travail qui n'aboutit à rien, pour aller vers une futée irrégulière, mais c'est plus compliqué à faire. Encore faut-il avoir les techniciens capables de le faire. Donc, si vous voulez, il y a plein de choses comme ça qu'on est en attente de décisions, de rencontres. Comme mon frère a dit, on n'est pas des ayatollahs. Nous, on veut que la forêt soit exploitée. Soit exploitée dans le respect, comme on a travaillé dans nos entreprises, avec le respect de notre métier, de notre boulot, de notre métier, quoi, de notre profession, notre entreprise. Tandis que là, on voit bien que ce qui se fait malheureusement, quand la coupe est vendue, l'exploitant la prend en charge, et le technicien sur le terrain, même s'il voit des choses impossibles à voir, ne peut rien dire. Même pas arrêter une coupe quand les engins s'en raquent jusqu'au châssis, lorsqu'ils font des ornières monstrueuses, indélébiles. Indélébiles qui resteront toujours là. Les gars, on ne peut pas arrêter l'exploitation parce que les délais sont tellement courts, les pénalités du exploitant vont être là, et puis qui n'ont pas la hargne dans le truc, et puis qui ne sont certainement pas soutenus par leur encadrement. Parce que si vous avez votre gars qui dit « mais ils font des trucs monstrueux, il faut faire stopper, même quelques jours, exploiter des arbres, débarder des arbres dans les conditions de l'hiver dernier, avec les ornières que ça a pu occasionner le travail, c'était un non-sens ». Qu'on coupe l'arbre, qu'on prépare l'enlèvement, mais qu'on attende que ça aille mieux. Mais ça ne se fait pas, ça n'existe pas.
Heureusement que ce n'est pas comme ça sur les autoroutes où les camions roulent à 200, je dois livrer à l'heure, laissez-moi passer. Hein.
Ah bah là, ça serait monstrueux. Hein.
Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression d'entendre un petit peu ce qui se passe à la SNCF. C'est un peu le même, les gens qui venaient par conviction de la SNCF, du transport des voyageurs, etc. Et aujourd'hui qui sont un peu démoralisés de comment a pris la tournure de leur société. C'est un peu le même souci en fait, aussi bien à l'ONF que à la SNCF.
Hein. Oui, on a le sentiment que ça c'est un copier-coller quoi, en fait, hein, tout à fait. C'est très,
la logique
très,
financière.
Très, très, ouais, la logique, ça, c'est logique financière, financière fait que, ouais, voilà, la logique financière est là. Vous parliez tout à l'heure de gros arbres qu'on coupe et que l'on broie pour faire du feu. Eh bien, on sait que certains marchands de bois ont coupé des chênes de très très haute qualité pour faire du pellet ou de la plaquette. Et la mort dans l'âme, ils les ont passés dans la machine parce qu'ils avaient un marché alimenté et que sinon, ils allaient prendre des pénalités. Et que voilà, on n'a pas hésité à passer des chaînes.
La pénalité était plus forte que le prix de la coupe.
Bien sûr. Là, on parlait des arbres, on parle aussi de tout ce qu'il y a un peu autour de la forêt, mais également, on n'a pas parlé des animaux, puisque c'est aussi quelque chose qui est très important, en dehors des grands cervidiers, etc. Il y a pas mal d'animaux qui ont disparu, notamment des oiseaux, le fourmilier... C'est quoi, le torcol fourmilier, ça ?
Le torcol fourmilier, oui, qui était bien installé sur la forêt de Compiègne. Oui, la cohorte animalière de la forêt de Compiègne est exceptionnelle. Alors, cette forêt mérite un classement au titre des forêts périurbaines, ça c'est une chose, mais également au titre de la 76 sur la protection de la nature. N'oublions pas que dans cette forêt, il y a 25% de vieux arbres qui sont le lieu de vie, d'habitat, protégés, hein, qui concernent tous les insectes apoxyliques, hein, les grands capricornes, les taupins, qu'est-ce qu'il y a encore, comme il y a les lucanes, enfin, il y a les quatre espèces extrêmement menacées et en liste rouge de la protection européenne, hein, c'est pas rien. Donc, si vous voulez, dans cette forêt, c'est un patrimoine écologique exceptionnel, c'est un laboratoire. Elle est aussi importante que la forêt de Fontainebleau, sauf que nous n'avons pas de climat, nous. À Fontainebleau, ils ont deux climats, océanique et méditerranéen. Donc, ça fait à chaque fois des cohortes d'espèces, floristiques ou animales. Nous, on n'a qu'un climat. Et donc, cette forêt est quand même exceptionnelle, malgré tout ça. Et elle mérite une autre vision que de faire des grumes, hein, et puis des copeaux. Hein.
Pour expliquer, excuse-moi, qu'il y a des différents statuts de protection, justement, de la forêt. Là, actuellement, il est en... Tu parlais de...
Là, on essaye. Sur la forêt de Compiègne, la forêt de Lègue, il n'y en a pas encore. Mais la forêt de Compiègne, en tout cas, il y a une réserve biologique intégrale qui est celle des Grands Monts, qui est intéressante parce qu'il y a une cohorte de chiroptères entre la maison d'Étoile de la Reine et la maison de forestier de Gonvary. C'était un axe de migratoire d'installation comme ça là. Un biocorridor forestier, si on peut dire, une zone d'évolution. Donc l'ensemble là est en réserve biologique intégrale. Sur l'aspect faunistique, c'est pareil, il y a des choses très intéressantes. Elle n'est pas exploitée, elle n'est pas touchée. Donc, il y a des bois qui pourrissent, du pourrissement au sol, il y a tout un tas d'autres. On espère avoir le statut de réserve biologique dirigée. Moi, nous aurions bien aimé voir une intégrale, justement sur les Beaumonts, où c'est là où il y a 120 hectares de très haute qualité européenne. On n'a pas deux fois dans Europe une forêt avec une densité de vieux arbres comme ça. Il y a 120 hectares, il y a 1200 arbres, 120 hectares avec 1200 arbres qui dépassent les 400 ans, là. Alors bien sûr, on évoque la sécurité, on le comprend. Mais lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il y a une alerte orange météo, on ne va pas en forêt. Quand il y a un drapeau rouge sur la mer, vous n'allez pas faire de surf. Ou alors, c'est vraiment à vos risques et périls.
De toute façon, vu qu'il y a moins de personnes maintenant qui se baladent, de toute façon, il y a moins de risques.
Ouais, tout à fait. Donc les gens, ils ont peur de la forêt. Mais dans certaines circonstances, c'est bien de l'avoir peur parce que c'est vrai qu'elle peut être impressionnante. Bien ça, sûr. C'est clair.
C'est vrai qu'on l'a vu avec les tempêtes, par exemple.
Ah,
où là, elles ont été totalement rasées.
Donc là, il ne faut pas y mettre les pieds, il faut rester chez soi et attendre que ça passe. Mais ces arbres sont des habitats tous protégés.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on vous contacte? Où est-ce qu'on vous rencontre?
Alors, on a un site internet qui est en reconstruction, donc je ne vais pas vous donner l'adresse, mais on a une page Facebook qui s'appelle tout simplement Oise Nature. Et sinon, vous pouvez nous contacter via la mairie de Saint-Jean-aux-Bois, puisque notre siège social est là-bas. Donc, vous nous envoyez un petit mot et avec vos coordonnées, on vous fera passer toutes les informations et tout ce dont vous voulez.
Et on pourra aussi vous emmener gratuitement en forêt.
Les bulletins d'adhésion à l'association.
Alors, on vous retrouve sur Facebook. Il y a un groupe Oise Nature où vous avez pas mal d'informations également.
Absolument.
À l'intérieur sur un peu l'utilisation. Par exemple, là, le dernier article, c'est sur l'utilisation possible du glyphosate dans la forêt de Saint-Gobain dans l'Aisne, sur les coupes de bois sur les ventes de coupes de bois qui sont réalisées par l'ONF. Enfin, voilà. Il y a pas mal d'informations, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce groupe qui s'appelle tout simplement Oise Nature à la fin. C'est quoi vos prochaines actions, à part la projection du film Le Temps des Forêts, jeudi 4 octobre? Il y a quoi après?
Faire une manif nous aurait bien tenté. Mais dans la situation économique, la situation géopolitique du secteur, pour l'instant, il faut peut-être temporiser. Mais c'est pas exclu du tout. Ce qu'on voudrait surtout, c'est notre objectif principal. Hein, c'est réellement celui sur lequel je m'engage dans les mois à venir. C'est sortir la forêt, la mettre dans un milieu, dans une adéquation avec avec la valeur de nos villes, de notre département. Parce qu'on ne peut pas, ou alors on a raté quelque chose de majeur, et ça, c'est pas faisable, on ne peut pas rester en l'état. Reprendre le dialogue, construire quelque chose, construire avec les élus, parce que les élus de nos villes, petites ou grandes, de nos villages forestiers et tout, doivent être totalement partie prenante. On se bagarre pour eux, on se bagarre pour la société, pour cette société-là aussi. Et il faut qu'ils soient à nos côtés, qu'on construise ensemble quelque chose de durable. Indépendamment, et on espère aussi que la refonte du plan d'aménagement sera faite, qu'on revoie, parce que si un ministre de l'Agriculture, malheureusement Hulot ne nous a pas répondu, il nous avait frasqué un tel, mais il est parti.
C'est trop tard.
C'est bien comme ça, c'est trop tard. Et on ne courra pas après lui. Mais il faut sortir cet anonymat voulu, je dis bien dirigé, pour que l'ensemble des habitants de nos villes, l'ensemble des élus puissent être bien dans leur peau, quoi, s'ils veulent bien venir avec nous ou bosser ou faire un groupe de travail tous ensemble.
Et puis moi j'ajouterais aussi parmi nos actions, et elle est en cours actuellement, c'est la création donc de ce SOS Forêt Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie, qui regroupe déjà 14 associations qui vont, j'allais dire, par ordre géographique du nord au sud de la forêt de Mormal, en passant par la forêt de Saint-Gobain, la forêt de Reste. Évidemment, ici, l'arc Compiègne-Légourscan, mais les aussi trois les trois forêts, donc les forêts d'Hermenonville, Chantilly, les suds de l'Oise. Et ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a des associations de la forêt de Sénart qui actuellement viennent rejoindre ce grand rassemblement SOS Forêt. L'idée, c'est d'être plus représentatif et de pouvoir continuer ce travail que l'on fait ici à l'échelon local, de le faire à l'échelon régional pour pouvoir encore plus enfoncer le clou, parce que ce que l'on a décrit sur la forêt de Compiègne, nos amis de Mormal le connaissent, nos amis de Saint-Gobain le connaissent, et en forêt de Sénart, c'est pareil, l'Île-de-France, là aussi, subit alors des problématiques extrêmement différentes, puisque là, ils ont des problèmes d'urbanisme, de choses comme ça. Il faut savoir qu'en Île-de-France, on est capable actuellement de raser une forêt pour faire un garage à tram. Hein. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Hein.
Oui, alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant que tout le monde sache, c'est que bien sûr, ce film ne plaît pas à tout le monde, et vous doutez bien. Ce qu'on voit, l'écart qu'on voit très souvent avec la forêt privée, c'est que la forêt privée fait partie du patrimoine de l'individu. Si moi j'ai une forêt, ou un bois, ou quelque chose, et que j'ai mon fils, je vais lui léguer. Bien Donc sûr. Je vais travailler de manière différente. Donc très souvent, on voit bien aussi qu'il y a des très très gros, hein, des grands propriétaires ou des sociétés propriétaires de forêts et que là, ils n'hésitent pas, hein, on en connaît tous. Hein. Mais on voit bien aussi que l'Office national des forêts organise la contrepartie de ces discussions-là en créant un argumentaire qui discrédite le film. Ils recherchent des relais sur le terrain avec n'importe qui, avec des gens qui peuvent parler en contrepartie de ce qu'ils se disent parce que ça les choque. Ça les choque. Mais c'est dans le même esprit de fausser le dialogue. Hein, on est dans un dialogue qui n'est pas constructif. Eux, ils sont sur la défensive. Nous, on est des lanceurs d'alerte. On dit les gens, regardez, venez voir ce qui se passe. On l'écrit depuis des années, on le dit. C'est une catastrophe. Et même maintenant, les scientifiques, les groupements scientifiques européens viennent aussi dire la même chose. Le président de la Fédération nationale du bois dit que c'est une catastrophe pour vous dire que on est vraiment dans la patrouille. Et aujourd'hui, je ne me mêle plus pour moi, parce que ce que j'ai vu en forêt, je l'ai vu et je le reverrai plus. C'est mes petits-enfants, déjà. Peut-être même les enfants de mes petits-enfants. Parce que là, c'est vrai que si on laisse faire partir comme ça. On devait faire un résultat sur le bilan carbone positif. On a accru le déficit de 3%. On accroît la difficulté. Alors, on a beau dire, on fait venir des bois des autres, on fait venir, ça vient d'ailleurs. Mais ailleurs, on se sert de la pauvreté qui vont mettre de l'huile de palme, on fait dégommer de la forêt, alors qu'on en a besoin aussi. Et puis chez nous, on continue pareil, ça vient cacher la misère chez nous.
Mais c'est plus loin, si, quand c'est loin,
oui,
on le voit pas.
Quand c'est loin, on le voit pas. Oui,
d'où l'importance de l'association et des opérations de sensibilisation. Tu disais les prochains projets, moi je pense qu'on a des pistes de réflexion pour pouvoir justement localement faire d'autres opérations d'animation pour sensibiliser le public le plus large sur la région.
Tout à fait, je crois que ça viendra de là. Le public doit s'accaparer le sujet. Et puis, petit à petit, mettra la pression sur les politiques. Et les politiques bougeront que lorsqu'il y aura la pression du terrain. C'est comme ça que ça fonctionne.
Donc, rejoignez Oise Nature, chers auditeurs.
Et venez surtout le jeudi 4 octobre, hein, si vous posez des questions sur la forêt. Même si vous ne posez pas de questions et que vous habitez aux côtés de la forêt, au moins, vous pourrez vous rendre compte comment un peu aller gérer. Puisque c'est un petit peu votre jardin, hein, parfois. Hein. Donc, le jeudi 4 octobre, au cinéma Le Majestic, en présence du réalisateur qui s'appelle François-Xavier Drouet. Il y aura un échange avec la salle. Peut-être que les contradicteurs seront peut-être présents dans la salle. Le but, c'est qu'il y ait un débat également. C'est à 20h, le tarif c'est 6,50€, 6€ en réduit et 5€ pour les moins de 14 ans. Il y a la réservation, on vous conseille toujours de réserver sur ce genre de débat, ça permet un petit peu de gérer en fait le flux d'arrivée, notamment les salles. Donc c'est majestic-compiègne.fr pour les réservations en ligne et sinon directement sur la caisse. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Vous aviez peut-être un dernier mot avant de nous quitter.
Non, moi, j'ai devant moi votre petit encart là, quasi publicitaire. Graphite 94.9, Radio Curieuse. Mais je dis que c'est très bien d'avoir la curiosité de ce qui se passe en forêt.
C'est ça, venez si vous êtes curieux.
Ça, bravo, c'est exactement le thème. Soyez voilà. Curieux.
Merci beaucoup Didier Caron, Jean-Luc Caron et Stanislas qu'on retrouve mercredi.
Mercredi soir, 22-23h, ouais. Gros exploration.
Double casquette. Merci beaucoup. Et puis bon après-midi, n'oubliez pas, le film c'est demain soir, jeudi 4 octobre à 20h. Bonne journée, bon courage et à demain. Salut.
Salut.